Alors bonjour à tous, c'est David Barbion du blog jecontrôlemoncerveau.com et aujourd'hui je suis ravi de pouvoir interviewer Jean-Michel Guret. Jean-Michel Guret qui est un spécialiste de l'EFT et qui vient de sortir un nouveau livre sur l'EFT pour les enfants en fait, qui s'appelle Fini les chagrins, les peurs et les colères. Alors bonjour Jean-Michel.
Bonjour David, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous montrer la une de cet ouvrage qui est sorti en fait le 16 août, donc un peu pendant la période estivale et qui commence à se développer, et les ventes marchent plutôt bien.
Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, Jean-Michel, tu le feras mieux que moi, te présenter?
Oui, donc je suis psychothérapeute depuis quelques années. Je suis installé dans un cabinet en libéral depuis 2005. Initialement, j'ai démarré avec l'hypnose, et puis par la suite, j'ai acquis d'autres nouveaux outils comme le MDR au départ. Et j'ai rencontré l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle, dans les années 2005. Et j'ai commencé à m'y intéresser et puis j'ai beaucoup consulté en utilisant cet outil. J'étais assez enthousiaste et assez étonné des résultats obtenus. On en parlait tout à l'heure avec David qui a le même genre de résultats et je le partage aussi avec d'autres stagiaires. Et donc j'ai eu l'idée de développer la notoriété, enfin j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, donc j'ai commencé à écrire un premier ouvrage, et puis d'autres se sont enchaînés. J'ai créé l'IFPEC, qui est l'Institut français de psychologie énergétique clinique, en 2012, et qui est devenue une école importante dans le domaine de l'enseignement et de la transmission de la psychologie énergétique, dont fait partie l'EFT. Voilà.
D'accord. Alors, moi, je connais, beaucoup de personnes commencent à connaître l'EFT, mais est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs qui n'ont jamais entendu parler ou qui connaissent mal ce que c'est l'EFT à la base? À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est?
Alors, l'EFT déjà découle d'une autre méthode qui s'appelle la thérapie du champ mental, qui a été découverte par hasard par un docteur en psychologie du nom de Roger Callahan, qui est décédé il y a quelques années, et qui, en travaillant avec une patiente qui avait des phobies, était bien embêté, parce qu'en fait, ça faisait un an qu'il multipliait les séances. Sans aucun résultat. Alors il faut savoir que c'est un docteur en psychologie avec une formation classique qui ensuite avait évolué s'était formé aux thérapies cognitivo-comportementales, mais pas que, à l'hypnose également et à tout un tas d'autres modalités. Et cette patiente très très résistante, il essayait de la rapprocher de sa piscine, puisque son cabinet était à son domicile. Chaque fois qu'elle s'approchait de l'eau, parce qu'elle était vraiment aquaphobe plus plus plus, on va dire, eh bien, elle avait des sensations d'inconfort telles qu'elle était obligée de s'arrêter. Alors, il essayait des techniques de relaxation, de respiration, d'hypnose, etc. Et rien n'y faisait, elle n'arrivait pas à se déconditionner. Et un jour où elle était particulièrement mal et qu'elle se plaignait d'avoir des sensations bizarres dans l'estomac, comme il se formait à la médecine traditionnelle chinoise, il a eu l'idée de stimuler un point qui est le début, l'entrée du méridien de l'estomac. Ça lui est venu comme ça, un peu en désespoir de cause. Et donc, sa patiente a commencé à se stimuler de cette manière-là. Et il écrit dans son livre, en moins d'une minute, j'ai vu une transformation physique sur elle. Elle s'est levée, elle lui a dit docteur, c'est terminé. Et alors, il pensait au départ, c'est terminé la sensation désagréable dans l'estomac, mais en fait, pas que, puisqu'il la voit partir en courant vers sa piscine. Et là, il se dit, il y a quelque chose de très bizarre. D'autant plus que le lendemain matin, elle lui passe un coup de fil et elle lui dit docteur, vous savez ce que j'ai fait hier soir? J'ai pris ma voiture, je suis allé jusqu'à l'océan, je suis rentré à mi-cuisse. Sa terreur principale, c'était l'océan. Elle était incapable de longer l'océan sur l'autoroute qui est en Californie. Donc de là, il s'est dit, il y a un truc, j'ai mis le doigt sur quelque chose, c'est le cas de le dire. il a commencé à faire des recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et en fait, il a utilisé d'autres outils, la kinésiologie appliquée, etc. Et il a mis en place une méthode thérapeutique qu'il a appelée la thérapie du champ mental. Et puis, sa notoriété a commencé à grandir. Et un jour, Gary Craig, qui était à l'époque un jeune ingénieur, enfin pas si jeune que ça d'ailleurs, mais un ingénieur en électricité qui est très intéressé par le développement personnel, entend parler de lui, suit son enseignement, je crois même qu'il devient son assistant passé une époque, il pratique beaucoup, et puis je pense qu'il a un esprit cartésien, et il s'est dit mais pourquoi compliquer les choses, parce qu'en fait Callahan avait mis en place ce qu'il avait appelé des algorithmes, et pour un symptôme, il y avait une stimulation précise dans un ordre précis de certains points d'acupuncture. Par exemple, pour un trauma, on va commencer à stimuler ce point-là, puis un point qui est situé sous l'œil, puis un point qui est situé sous le bras, puis sous les clavicules, dans cet ordre-là. Et Craig remet ça un peu en cause, et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met une seule routine où on enchaîne la stimulation de tous les points. Il part du principe que qui peut plus peut le moins, donc on stimule tous les points d'acupuncture. Il n'y a même pas d'ordre défini puisqu'on pourrait les stimuler dans n'importe quel ordre, et il observe dans sa pratique que ça fonctionne bien. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que partant de la thérapie du champ mental, il a simplifié cette méthode jusqu'à en faire un outil, enfin, qu'il a appelé l'EFT, Emotional Freedom Technique, comme je disais tout à l'heure. Et cet outil est tellement simple qu'il peut se transmettre via Internet, il peut s'apprendre très facilement en lisant un livre, pour travailler sur soi, bien sûr. Et donc, ça a entraîné une sorte de phénomène de contagion, de phénomène viral en fait, sur Internet. Et aujourd'hui, on estime que plus de, certains chiffres disent 10 millions et d'autres plus, de personnes qui utilisent au quotidien l'EFT. Voilà. Alors donc, cette technique, hein, tu me posais la question de savoir mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Eh bien, c'est une technique qu'on dit psychocorporelle de relaxation. Pourquoi psycho ? Parce qu'on va penser à un problème. Quand on pense à notre problème, eh bien, on s'active émotionnellement. Si c'est par exemple un traumatisme que j'ai vécu il y a quelques années, et que c'est quelque chose qui me touche encore, c'est encore actif, peut-être que les larmes vont venir, eh bien, pendant que je suis concentré sur cet événement, je vais stimuler un ensemble de points donc, qui se trouvent sur le visage, sur le torse et sur les mains, qui sont les points d'entrée ou de sortie des méridiens d'énergie utilisés par la médecine traditionnelle chinoise, le long desquels on plante des aiguilles d'acupuncture. L'intérêt, c'est que les outils, on les a sur nous, hein, on utilise deux doigts de chaque main, et on stimule ces points. Et quand on stimule ces points, eh bien, il se passe un enchaînement de réactions dans le corps, dans le cerveau, qui fait qu'on va calmer l'amygdale cérébrale, qui est le centre émotionnel et notamment de la peur, et puis on va activer le système parasympathique, qui est une des deux branches du système nerveux autonome et qui engage une réaction de calme. On va stimuler plus de bons neurotransmetteurs et plus de bonnes hormones et moins des autres. Par exemple, on va doper la production de DHEA et stopper, diminuer, réduire, voire supprimer la production de cortisol excédentaire. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'on l'a mesuré ça scientifiquement? Est-ce qu'on a fait des études là-dessus?
Alors, bien sûr, il suffit d'aller sur le site de l'IFPEC, par exemple, www.ifpec.org, pour pouvoir accéder à plus d'une centaine d'études. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on imagine que les États-Unis sont un pays très ouvert où les nouvelles thérapies fleurissent et se développent largement. En fait, pas du tout. Il y a autant de réticence qu'en France. Donc, quand l'EFT et d'autres techniques, hein, puisque le champ de la psychologie énergétique clinique regroupe plus d'une quarantaine de techniques différentes, ces personnes se sont structurées, se sont regroupées au début des années 2000 fin des années 90, en fait, pour créer une association qui s'appelle l'ACEP, l'Association américaine de psychologie énergétique intégrative. Donc, en fait, ils se réunissent entre eux. Et ils ont commencé à produire des études qui ont été assez mal vues. La méthodologie a été affinée de ces études. Et en fait, après 10-12 ans de bagarre, ils ont été officiellement reconnus par l'APA. L'APA, c'est l'Association des psychologues américains, et c'est vraiment une association qui fait autorité aux États-Unis puisqu'elle délivre des crédits formation, sachant que les professionnels de la santé mentale doivent se former chaque année. Ils ont un système de formation continue, et les techniques qui sont validées, reconnues, donnent droit à obtenir ces crédits-là. Et donc, ils ont obtenu ça, mais en 2012 seulement, ça fait 4 ans, c'est-à-dire hier. Et c'était un agrément à titre provisoire qui a été renouvelé l'année dernière, en 2015. Donc aujourd'hui, l'Association des psychologues américains reconnaît la validité. Il n'y a pas que l'Association des psychologues américains, parce qu'il y a des associations de médecins qui viennent se former en masse à ces techniques, parce que ça permet aussi de réduire la douleur, par exemple, et d'avoir un effet sur beaucoup de symptômes différents, aussi bien physiques, physiologiques que psychologiques. Et donc, ces études sortent en permanence. Par exemple, le 19, je fais de la veille, et le 19 septembre, il y a une étude qui est sortie. C'est une étude, c'est un essai randomisé contrôlé. Donc, c'est l'étalon or en matière dans le domaine de la psychologie, hein, ce qu'on appelle le golden standard. C'est une étude qui porte sur 63 étudiants HP, précoces, en fait. Et ces 63 étudiants étaient répartis en 3 groupes de 21 étudiants, d'une manière aléatoire. Et on a pris un groupe sur lequel... Alors, ce sont des étudiants qui sont à la fois à haut potentiel intellectuel, mais qui sont tous anxieux. Donc, ils ont été répartis dans 3 groupes. Un groupe qui va être traité avec le EFT, un groupe qui est traité avec les thérapies cognitives ou comportementales, et un groupe test, en fait, et avec lequel on va rien faire. Et donc, on leur fait remplir un questionnaire validé avant l'expérimentation et après. Et comme ça pour les 3 groupes. Et en fait, ce qu'on a, les résultats de cette étude, qui est visible sur des bases de données publiques, hein, le résumé, l'abstract, vous tapez PubMed ou Science Direct, vous accédez directement au résumé de cette étude, montre que, en fait, montre l'efficacité de l'EFT comparativement aux thérapies cognitivo-comportementales. En fait, si on regarde, il y a aussi des méta-études qui ont été réalisées, c'est-à-dire des études sur les études. Ce qu'on observe par rapport à la psychologie énergétique et à l'EFT, c'est que toutes les études concourent vers un seul résultat qui prouve l'efficacité de l'EFT et qui est au moins égal au meilleur des thérapies, si ce n'est supérieur.
Oui, c'est vrai que quand on voit une démonstration d'EFT, moi la première fois que je t'ai vu faire une démonstration d'EFT, c'est vrai que la méthode est un peu bizarre, ça fait un peu quelque chose qui est un peu étonnant, du type on pense à quelque chose de sectaire, ou donc c'est important d'avoir ces différentes études qui crédibilisent la démarche. Sachant qu'avec l'EFT, on a quand même des résultats qui sont assez extraordinaires. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de... peut-être soit faire une petite mini-démonstration pour que les gens voient ce que c'est que l'EFT en fait en concret, ou est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de la façon que tu as de présenter l'EFT à tes patients ou à tes étudiants, de manière à ce qu'ils puissent en parler assez facilement autour d'eux?
Alors, au départ, j'avais tendance à présenter à mes patients, et presque pour me justifier, parce que comme tu le disais, effectivement, c'est une technique qui, quand on la regarde pour la première fois ou qu'on découvre ça sur Internet, on se dit « Oula, ils sont un peu bizarres, ces gens-là ». Pourquoi ? Parce qu'elle est hyper simple, il y a même un côté un peu enfantin, c'est-à-dire qu'on stimule comme ça, on fait des petits tapotements. D'ailleurs, moi, j'évite de d'utiliser le mot tapotement pour pas en rajouter, je parle de stimulation, qui se font sur des points d'acupuncture. On stimule 7 à 10 fois à chaque point, et puis ensuite on tourne comme ça, et on continue. En fait, des études qui ont été menées pendant 10 ans à la Medical School de Harvard, donc la fac médicale d'une des plus prestigieuses universités au monde, pendant 10 ans, un groupe de chercheurs a observé ce qui se passait quand on stimulait des points d'acupuncture au niveau du cerveau. Et on s'est aperçu de la correspondance. Par exemple, si on stimule un point qui s'appelle VJ67, qui se trouve sur le côté extérieur du petit doigt, eh bien, il se passe quelque chose dans la zone du cortex visuel. Et ce qui est surprenant, c'est que les Chinois, depuis 5000 ans, utilisent ce point-là pour traiter des problèmes qui sont en lien avec la vue. Donc on est en train de découvrir que ce que font les Chinois, pareil, et pas seulement eux d'ailleurs, depuis 5000 ans, ben finalement ça a une action sur le cerveau. L'équipe de Harvard a mis en évidence l'action de la stimulation de certains points d'acupuncture sur l'amygdale cérébrale. Donc, l'amygdale cérébrale, à pas confondre avec ces amygdales-là, ce sont deux petites glandes qui sont dans le cerveau limbique et qui sont impliquées dans la gestion d'un grand nombre d'émotions, dont la peur. Et donc, en fait, on désactive la réaction de peur quand on stimule des points d'acupuncture. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand on a vécu un traumatisme, si le traumatisme, il n'est pas, on n'arrive pas à le digérer, on va dire simplement, comme ça, grâce à, avec le temps qui passe, avec l'environnement, etc. Dans certains cas, ça se fait, et dans d'autres cas, ça se fait pas. Si le traumatisme n'est pas digéré, eh bien, il est impossible de l'intégrer dans son histoire de vie. C'est-à-dire que le traumatisme va être revécu en permanence. Je suis confronté à un stimulus X ou Y. Si c'est le même avec lequel j'étais en présence au moment du trauma, par exemple un son fort, comme le pot d'échappement d'une voiture qui va se mettre à claquer, qui va me faire penser à un claquement que j'aurais vécu parce que j'étais dans une fusillade, eh bien, je vais déclencher la même émotion que j'ai vécue à ce moment-là. Et ça, eh bien, c'est incontrôlable. Et on peut faire beaucoup de thérapies, il y en a plein qui fonctionnent pas. En tout cas, les thérapies par la parole ne marchent pas. C'est pas parce qu'on va essayer de se raisonner que ça va changer quelque chose. Et là où...
Est-ce que c'est pas parce que les émotions sont bloquées au niveau du cerveau limbique? Que c'est plus profond que le travail qu'on pourrait faire par la parole, et donc il faut agir à un niveau plus profond pour que ça débloque l'émotion, un petit peu comme une bulle d'air qu'on débloquerait quelque part sous une roche dans la mer.
Alors c'est pas qu'une bulle d'air. En fait, il y a des études, des travaux, notamment ceux de Bruce Ecker, qui est un Américain, qui ont montré que au moment, en fait, la règle, c'est les neurones qui sont activés ensemble se lient ensemble. Et donc il se réactive. Et en fait, dans l'amygdale, il y a des noyaux en fait qui constituent ces amygdales, et il y a des connexions synaptiques qui se créent entre les neurones. Et tant que ces connexions perdurent, eh bien, on a la réaction qui se déclenche automatiquement. Et en fait, le but et l'objectif qu'on cherche avec l'EFT, quand on travaille avec nos patients, c'est d'obtenir ce qu'on appelle la reconsolidation de mémoire. La reconsolidation de mémoire, c'est-à-dire que on va avoir une déconnexion des liens qui maintenaient les réactions émotionnelles incontrôlables et inconscientes. Donc en fait, la connexion va aller se mettre ailleurs, et à partir du moment où on aura fait ça, eh bien, fini. On garde le souvenir du traumatisme. Les souvenirs autobiographiques sont encodés dans une partie du cerveau qui est différente de la mémoire émotionnelle. On appelle ça l'hippocampe, et c'est là que sont stockés la mémoire de ce qu'on a vécu. L'émotion qui est liée au souvenir, elle est stockée dans l'amygdale. Et donc, en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est à donner la possibilité à la personne de se rappeler ce qu'elle a vécu, mais ce coup-là, de plus rien déclencher. Même en présence d'un stimulus qui l'activait auparavant.
D'accord. Alors concrètement, Jean-Michel, tu veux dire que une personne peut venir avec un traumatisme, par exemple, quelque chose dans lequel elle est bloquée depuis peut-être des mois, des années, des dizaines d'années, et tu vas stimuler des points précis qui vont permettre à ce traumatisme d'être digéré, c'est ça, en ultra rapide, ça serait un peu ça?
Oui, j'ai eu l'occasion de travailler aussi bien avec des militaires, des pompiers, des policiers, des victimes d'attentats récents.
Tu as travaillé en Haïti aussi, je crois.
Oui, des victimes du tremblement de terre d'Haïti. On y est allé un peu plus d'un an après le tremblement de terre. Et donc, on a pu, à cette occasion, vérifier, enfin, travailler avec des personnes qui sont en état de stress post-traumatique, c'est-à-dire qui revivent tous les symptômes, comme par exemple des cauchemars, des réveils nocturnes, qui font de l'évitement, qui sont en hypervigilance tout le temps, et qui sont complètement activés. Par exemple, on a, quand en Haïti, on est arrivé, le matin, j'expliquais ce que c'était que l'EFT. Il y a un avion qui est passé juste sur la tente où on faisait la formation. On la faisait dans une tente parce que les gens ne pouvaient plus rentrer dans des bâtiments tellement qu'ils étaient traumatisés, ce qui était aussi un des symptômes du stress post-traumatique. Et même il y en avait, ils ne pouvaient même pas être sous la tente, ils étaient à l'extérieur de la tente. Quand l'avion est passé, il y a à peu près 30% de la salle qui s'est jetée par terre. C'est un réflexe. C'est un réflexe qui a été conditionné par ce qu'ils ont vécu auparavant. On a profité de ça et je leur ai dit, voilà, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y en a qui ont dit, bah, j'ai entendu les tremblements. Enfin, j'ai ressenti les tremblements. L'autre, c'est j'ai entendu le bruit. Et on a intégré ça dans une phrase qui est un peu bizarre, je le concède. En stimulant cette partie de la main, je leur ai fait dire, même si j'ai entendu ce bruit assourdissant et que j'ai ressenti ces vibrations et que ça m'a fait penser au tremblement de terre, je m'accepte tel que je suis. On fait cette phrase et ensuite on commence à stimuler des points. Et en stimulant ces points, l'objectif est de rester concentré sur ce souvenir. Donc chacun répétait des phrases comme « j'ai entendu ce bruit, ça m'a fait penser au tremblement de terre ». En réalité, ça leur a fait penser à des scènes différentes pour chacun, puisqu'ils n'ont pas vécu la même chose, mais ça faisait écho en eux. Et donc ça réactive cette sensation de peur, et pendant ce temps, ils stimulent ces points. Le fait d'enchaîner des rondes et des rondes de stimulation désactive l'amygdale cérébrale. Donc on arrive à un déconditionnement de la réaction, tout simplement. Et donc, au bout de quelques minutes, ils se sentaient beaucoup plus relâchés. On a partagé ça tous ensemble. L'après-midi, s'est passé le même phénomène. Un autre avion est passé. Même genre, même bruit, même vibration. Personne ne s'est jeté par terre.
C'est vrai que l'EFT, ça peut être très rapide comme thérapie. Hein. C'est des fois en quelques minutes, c'est ça qui est étonnant.
Moi, j'insiste pas sur le côté très rapide, parce que après, les gens, ils ont tendance à penser que c'est magique, miraculeux, etc. Pas du tout. Ça dépend des troubles. Et des fois, bon, on est souvent surpris, c'est vrai, de la rapidité. Si je reste sur l'exemple d'Haïti, on peut voir les vidéos sur Internet. J'ai demandé un volontaire pour une démonstration. Le jeune homme qui se lève, il a des béquilles et en fait, il a une jambe qui a été coupée au niveau de sa jambe droite. Et il arrive en disant, ben, ça fait 15 jours que j'ai plus d'antalgiques, j'ai pas les moyens d'en acheter et j'ai vraiment des douleurs extrêmement fortes. Et le pire, c'est que j'ai des douleurs dans le pied que j'ai plus, donc ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme. On a commencé à travailler avec lui, la douleur est passée de 8 à 2. Il en restait, mais c'était déjà beaucoup plus tolérable. Il a continué le travail, le lendemain on a refait une séance. Quand il témoigne, il dit qu'il a quasiment plus de douleur. On est parti sur une deuxième mission un peu plus d'un an après le tremblement de terre. Et le prêtre, puisqu'on était dans le cadre du grand séminaire d'Haïti, nous dit « Ah non, non, mais il n'a plus aucune douleur, d'ailleurs il joue au foot avec les autres ». Je lui dis, mais comment ça, il joue au foot avec les autres? Il est arbitre ou... Il me dit, non, il court avec les autres. Donc, j'imagine que la douleur... Ah, effectivement. Alors, ça a été spectaculaire parce que très rapidement, il y a eu une diminution de la douleur, mais ça a été d'autant plus efficace que lui a pris le relais et a continué à travailler tout seul sur ses douleurs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui mérite d'être vraiment souligné, c'est l'autonomisation de nos patients, c'est-à-dire que on va réduire le nombre de séances et accélérer la rapidité du traitement, d'autant plus que nos patients vont travailler eux entre les séances. Ça, on le voit vraiment.
D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est une technique simple que chacun peut apprendre, de manière à travailler sur ses traumas, sur ses blessures, sur ses problèmes intérieurs.
Oui. Et tout en ayant conscience d'une chose, c'est très simple à apprendre pour s'en servir sur soi. C'est beaucoup moins simple à apprendre pour s'en servir sur les autres. Et là, c'est là où on constate souvent un souci. Pourquoi ? Parce que quand on travaille sur soi, on a nos propres systèmes de protection qui sont en place. Si par exemple je suis dissocié et que je vais travailler sur moi par rapport à un problème que j'ai vécu mais qui était très très lourd, j'arriverai pas forcément à y aller. Pourquoi ? Parce que mon mécanisme de protection est super efficace et j'irai pas. Donc je risque pas de me faire mal, je risque pas de décompenser en fait. Maintenant, c'est une technique permissive, simple, efficace, etc., qui a plein plein d'avantages. Et en fait, il y a des personnes qui, après avoir obtenu des super résultats sur eux, se disent « Ah ben c'est tellement simple que je vais regarder 3 vidéos et lire 2 livres, et puis je vais pouvoir commencer à l'appliquer sur les autres. » Et c'est là qu'on risque d'avoir un problème, parce que sur des problèmes sérieux, mais qui touchent pas les fondamentaux psychologiques de la personne, eh bien, ça fonctionne super bien. Mais si on se retrouve en face d'une personne qui a des troubles mentaux et qu'on ne connaît pas ni les troubles, ni le fonctionnement psychologique des gens d'une manière générale, etc., on risque de faire du dégât. Même si ça arrive une fois, c'est une fois de trop, quoi.
Évidemment, tu as raison de le dire. J'imagine qu'on trouve de tout sur Internet, hein, du bon comme du moins bon. Donc toi, est-ce que tu donnes des cours par rapport à ça ? Est-ce que tu permets à des personnes qui le souhaiteraient d'être formées en EFT ?
Alors, bien sûr, c'est la raison d'être de l'IFPEC. Comme on existe depuis maintenant pas mal d'années et que on propose une certification qui est reconnue, et plusieurs personnes, un grand nombre de personnes viennent nous voir. Au départ, quand on a démarré, tout le monde était un peu mélangé. Donc on pouvait très bien retrouver une personne qui venait en formation pour elle ou pour ses petits-enfants, avec un psychologue ou un psychiatre. Et ça posait évidemment des problèmes de rapidité de l'enseignement. Certaines personnes posaient des questions qui étaient vraiment un peu basiques. Donc on a aujourd'hui segmenté les populations. On a une formation, et c'est le principal pour l'instant de notre activité, qui est destinée aux personnes qui sont déjà des soignants, déjà des thérapeutes, qui peuvent être des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, des psy quelque chose, on va dire, des thérapeutes. En tout cas, qui ont déjà une pratique de l'accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'on va leur apprendre l'outil, mais que l'outil, il s'utilise pas n'importe comment, dans n'importe quel cadre. Donc, ils ont déjà cette connaissance, et ça permet d'aller très vite sur l'essentiel. Donc on a beaucoup de thérapeutes, mais on a aussi des coachs, une proportion de coachs qui est en augmentation, parce que c'est un outil qui peut s'insérer dans la pratique du coaching. Ensuite, les personnes qui venaient pour elles disaient, mais et nous alors on peut plus accéder à ces formations? Ben non, vous pouvez pas y accéder. En revanche, on a développé spécifiquement pour ces personnes des séminaires qu'on appelle l'EFT pour moi. C'est-à-dire qu'elles viennent l'apprendre pour elles-mêmes. Et donc, dans ces formations, on va faire un travail sur soi et on va voir comment utiliser efficacement l'EFT. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes, et ça, c'est plus récent, cette formation. Ce sont des personnes qui ont eu une erreur d'aiguillage dès le départ. Par exemple, papa-maman voulait qu'on soit dans la comptabilité ou l'informatique, etc. Et puis, arrivé à 40, 45 ans, ça commence à vraiment être pesant et on se dit, j'ai toujours voulu être dans la relation, aider des gens, donc j'aimerais bien pouvoir changer de voie. Le problème, c'est que l'éducation nationale ne permet pas de faire ces formations. Pour faire une formation, par exemple, dans une technique thérapeutique reconnue officiellement, il faut déjà avoir un master 2 en psychologie, et c'est difficile quand on a un travail, une famille, des obligations, etc., que de repartir en fac 5 ans, réussir à avoir le diplôme, puis faire ensuite une formation qui va durer X années en psychothérapie. C'est quasiment impossible. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est une formation spécifique pour cette catégorie de personnes qui veulent faire une reconversion, adaptée à leurs contraintes, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours de formation, un vendredi, un samedi, ce qui occulte pas complètement le week-end, durant 11 mois. Donc ça fait 2 jours durant 11 mois pendant 3 ans. Donc on a 66 jours de formation durant lesquels on va commencer à apprendre les bases de la psychologie, ce qui va permettre à la personne de comprendre comment se développe un être humain. Puis on va parler de la psychopathologie, c'est-à-dire toutes les maladies mentales, ce qui est vraiment hyper important, parce que ça va nous permettre, ou ça va permettre aux personnes en reconversion, de savoir avec qui est-ce qu'elles ont en face d'elles. Et donc de savoir si je peux travailler avec ce patient ou je le réfère à un spécialiste. Voilà, et bon, il y a une progression de cette formation. Bien évidemment, on découvre l'EFT, le Matrix Ray Imprinting, qui est une évolution, on va dire, de l'EFT, etc., etc. Voilà, donc trois catégories de personnes qui sont bien segmentées.
On mettra le lien concernant ton école sous la vidéo, bien sûr, avec les liens vers les vidéos d'IT ou d'autres ressources comme ça qui pourraient être intéressantes pour les gens qui nous écoutent. Et j'avais une dernière question, Jean-Michel, pour toi. C'est, tu as écrit plusieurs livres sur l'EFT. Tu as écrit l'EFT pour les nuls, l'EFT maigrir et rester mince avec l'EFT, la libération émotionnelle avec l'EFT, pardon. Et tu viens de sortir donc ce dernier livre sur qui concerne apparemment les enfants, sur comment traiter les émotions, les chagrins, les peurs, les tristesses des enfants. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots sur ce livre, dont je mettrai le lien aussi hein, sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui va apporter? Est-ce que c'est un livre qui va apprendre justement aux enfants à se servir de cette technique simple et efficace pour gérer leurs émotions?
Ce livre-là, il s'adresse d'abord aux parents pour qu'ils puissent comprendre comment utiliser l'EFT intelligemment avec leurs enfants. C'est-à-dire que il n'est pas question de supprimer les émotions. Les émotions, elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas d'émotions négatives. Hein. Souvent, on emploie ce terme à tort, même des gens qui savent que c'est à tort l'emploi. Les émotions sont adaptatives. Elles sont là pour nous permettre d'adopter un comportement par rapport à l'extérieur. Elles sont là pour nous protéger, en fait. Hein. La colère, par exemple, est une émotion chargée en énergie qui nous permet d'agir, de se défendre, de poser des limites, etc. La tristesse aussi, je vous renvoie au film absolument génial qui s'appelle Vice Versa, Inside Out, qui a été traduit en français par Vice Versa, où on voit justement que la joie a besoin de la tristesse pour exister, et vice versa. Donc en fait, on va apprendre aux parents, à la maman qui... mais même avant, on peut s'en servir dans les problèmes de procréation, par exemple, d'angoisse, de se dire « oulala, oui, etc. » Enfin, toutes les angoisses qui passent quand la maman est enceinte, avant qu'elle soit enceinte. Et puis ensuite, on va apprendre comment travailler spécifiquement avec un nouveau-né, parce qu'on peut travailler avec un nouveau-né. Hein, évidemment, on ne va pas stimuler comme ça. On peut juste masser, caresser le poing, ou par procuration, c'est-à-dire le faire soi-même, sur soi-même pour l'enfant. Enfin, ensuite, on va s'intéresser à la période 0-2 ans, 2 à 6, 6 à 10, 10-12 et au-delà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va travailler avec l'EFT d'une manière différente en fonction du taux vibratoire, de la fréquence vibratoire du cerveau. Hein, de 0 à 2 ans, l'enfant, par exemple, je citerai juste ça, est un fonctionnement en onde delta. C'est-à-dire que c'est les ondes du sommeil profond. Et donc, dans cette période, il dort beaucoup et il fait des apprentissages aussi en masse, d'ailleurs jusqu'à 6 ans, hein, de 2 à 6, il passe en θ, qui sont les ondes de l'hypnose profonde. C'est la période où on engrange énormément d'informations. Donc, en fonction de ces âges, les fréquences vibratoires étant différentes, l'utilisation de l'EFT va être un peu différente. Donc, on apprend aux parents à l'appliquer sur leurs enfants, on leur apprend à transmettre aux enfants, les enfants ensuite vont s'en servir sur eux. Ça, c'est l'objet de la deuxième partie. La troisième partie est consacrée aux parents, parce qu'en fait, en chacun d'entre nous sommeille un enfant, et que donc on va retransmettre des choses à nos enfants. Les enfants sont des éponges émotionnelles et des miroirs émotionnels. Donc la première chose qu'ils vont apprendre avant même la parole, c'est le langage émotionnel de leurs parents. Plutôt que de vouloir travailler sur les enfants, autant travailler sur nous. Je veux dire, si on leur transmet nos valises, on pose nos valises, et les enfants, ils réagissent immédiatement, même pas besoin d'aller travailler avec eux. Donc voilà, l'objectif de ce premier livre sur les enfants, il va être suivi par un cahier d'exercice pour la famille, et il va être suivi par un livre spécifiquement pour les enfants. C'est-à-dire, bon, ça reste encore dans les projets. Il y a également d'autres livres qui sont en cours de préparation. Il y en a un sur les kilos émotionnels qui est signé, donc qui va bientôt, qui est en cours de production et qui sortira l'année prochaine. J'en ai également un sur l'EFT, les maladies chroniques comme le cancer. Il y en a sur le stress, il y en a beaucoup d'autres qui sont prévus.
D'accord, bon, on mettra tous les liens qu'on peut mettre sous la vidéo. Est-ce que pour finir, Jean-Michel, tu as un dernier mot, un mot de la fin concernant l'EFT ?
Écoute, le dernier mot, c'est merci pour toi de m'avoir invité ici. Et pour développer aussi un peu, merci de m'avoir fait part de ton témoignage. Et parce qu'on s'est connus, c'était en 2009, au sein de l'Arche, l'école d'hypnose à Paris. C'est là que toi, tu as découvert l'EFT. Et comme moi, tu intègres la pratique de l'EFT dans l'hypnose et l'hypnose dans l'EFT. Et réjoui, ravi des résultats que tu peux obtenir, et donc voilà, pour ton témoignage, merci, et pour cette invitation.
Oui, merci à toi, et c'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une thérapie, bon, tu l'as un petit peu développée là pour expliquer un peu les tenants, les aboutissants, mais c'est vrai que c'est une thérapie relativement simple, mais très efficace. Et moi je trouve que le plus important, c'est les résultats et l'efficacité, donc c'était important qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo d'avoir vu, regardé et écouté cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une prochaine. Bye bye.